Henri Cauvin, Maximilien Heller. Chapitre 1er. Un étrange malade. Ce fut le 3 janvier 1845 à 8 heures du soir que je fis la connaissance de M. Maximilien Heller. Quelques jours auparavant, j'avais été abordé dans la rue par un de mes amis, Jules H., qui, les premiers compliments échangés, m'avait dit avec une insistance toute particulière. « Ah, voici déjà quelque temps que je voulais aller chez vous, mon cher docteur, pour vous prier de me rendre un grand service. Un de mes anciens confrères du barreau, M. Heller, qui demeure ici près, est dans l'état de santé le plus alarmant. Nous avions d'abord cru, ses amis et moi, que son mal était plus moral que physique. Nous avons essayé tous les moyens de distraction possibles. Nous avons tâché de donner quelques aliments à son intelligence que nous avons connue autrefois si belle et si lumineuse. Je dois convenir que tous nos efforts ont échoué. Il ne nous reste plus qu'à implorer le secours de la science. Ce que notre amitié n'a pu faire, votre autorité docteur le fera peut-être. Maximilien a une nature énergique et il ne cédera guère, je crois, qu'à une raison supérieure. Allez donc chez lui un de ces soirs, mon cher ami, et voyez ce que vous pouvez faire pour ce pauvre garçon. Je vous serai tout particulièrement reconnaissant du bien que vous lui ferez. » La semaine suivante, pour condescendre au désir que m'avait exprimé mon ami, et bien que cette visite me répugnât un peu, car j'avais entendu parler de M. Maximilien Heller comme d'un excentrique désagréable et fort maussade, je me rendis chez mon nouveau malade. Il demeurait dans une des rues tortueuses de la butte Saint-Roch. La maison qu'il habitait était très étroite, elle n'avait que 2 fenêtres de façade, mais en revanche, sa hauteur était exagérée. Elle se composait de 5 étages et de 2 mansardes superposées. Au rez-de-chaussée était une boutique de fruitiers peinte en vert qui s'ouvrait sur la rue. Une porte basse, treillagée en sa partie supérieure, donnait accès dans l'intérieur de la maison. Après avoir traversé un long couloir sombre dont le parquet cédait sous le pas, on arrivait brusquement à 2 marches vermoulues qu'on apercevait à peine dans l'obscurité et contre lesquelles on trébuchait inévitablement. Le bruit de cette chute avertissait le portier qu'un visiteur se présentait dans son immeuble. C'était un moyen fort ingénieux, assurément, d'économiser les frais d'une sonnette. J'étais encore tout saisi de l'émotion désagréable qui suit un faux pas imprévu fait dans l'obscurité, lorsque j'entendis une voix aigre, comme celle d'une sorcière, sortir d'une sorte de niche pratiquée sous l'escalier. « Que voulez-vous? Chez qui allez-vous ? » me cria l'invisible Cerbère. « Monsieur Maximilien Heller est-il chez lui ? » répondis-je en tournant la tête du côté d'où la voix était partie. « Au 6e, la porte à droite !» répondit laconiquement ce portier fantastique. Je me mis en devoir de commencer l'ascension. Soit par ignorance, soit pour simplifier sa besogne, l'architecte n'avait pas donné aux escaliers la forme tournante qu'ils ont d'ordinaire. Il se composait d'une série d'échelles droites, aboutissant à des paliers étroits sur lesquels s'ouvraient les portes noircies des chambres. J'arrivais enfin au 6e étage. Une lueur que j'aperçus au fond d'un étroit corridor me servit de guide. Cette lueur était celle d'une petite lampe fumeuse suspendue à un clou près de la première porte à droite. « Oh, ce doit être là, » pensais-je, et je frappai doucement. « Entrez !» me répondit une voix faible. Je poussai la porte, qui n'était fermée qu'avec un loquet, et j'entrai dans la chambre de M. Maximilien Heller. Cette chambre présentait un singulier spectacle. Les murs étaient dénudés et couverts seulement par place de lambeaux d'un papier vulgaire. À gauche, un rideau de perse d'un rose fané pendait à une tringle et cachait sans doute un lit placé dans le renfoncement du mur. un feu de motte brûlait dans la petite cheminée. Sur une table, située à peu près au milieu de cette modeste cellule, des papiers et des livres étaient amoncelés dans le plus beau désordre. Maximilien Heller était étendu dans un grand fauteuil près de la cheminée. Sa tête était renversée en arrière, ses pieds reposaient sur les chenets. Une longue houppelande enveloppait son corps maigre comme un squelette. Devant lui, dans les cendres, chantait une petite bouillotte de fer blanc qui dialoguait avec un grillon caché dans l'âtre. Maximilien buvait énormément de café. Un gros châle, les griffes rentrées sous sa poitrine fourrée, les yeux demi-clos, faisaient entendre son ronron monotone. Lorsque j'entrai, le chat se leva en faisant le gros dos. Son maître ne bougea pas. Il resta immobile, les yeux toujours fixés au plafond, ses mains blanches et effilées posées sur les bras du fauteuil. Je fus surpris de cet accueil. J'hésitai un instant, puis enfin je m'approchai de ce singulier personnage et lui dis l'objet de ma visite. « Ah, c'est vous, docteur » fit-il en tournant légèrement la tête de mon côté. « On m'en est fait parler de vous. Prenez donc la peine de vous asseoir. Au fait, ai-je une chaise à vous offrir ? Ah oui, tenez, je crois qu'il m'en reste encore une dans ce coin-ci. » Je pris la chaise qu'il m'indiquait du doigt et vins m'asseoir à côté de lui. « Oh, ce brave Jules, continua-t-il, il m'a trouvé bien malade la dernière fois qu'il est venu me voir et m'a promis de m'envoyer la faculté. C'est vous la faculté ?» Je m'inclinai en souriant. « Oui, je souffre beaucoup. J'ai depuis quelque temps des éblouissements et ne puis soutenir l'éclat de la lumière. J'ai toujours froid. » Il pencha son long corps vers la cheminée et attisa le feu avec les pincettes. La flamme qui jaillit éclaira d'une lueur rouge la figure de cet homme étrange. Il paraissait avoir 30 ans au plus, mais ses yeux, entourés d'un cercle noir, ses lèvres pâles, ses cheveux grisonnants, le tremblement de ses membres en faisaient presque un vieillard. Il se rejeta lourdement dans son fauteuil et me tendit la main. « J'ai la fièvre, n'est-ce pas » dit-il. Sa main était brûlante, son pouls rapide et saccadé. Je lui fis toutes les questions d'usage et il me répondait d'une voix faible et sans tourner la tête. Lorsque j'eus fini mon examen, « Voilà un homme perdu, pensais-je. » « Je suis bien malade, n'est-ce pas ? Combien croyez-vous qu'il me reste encore à vivre ? » dit-il en me regardant fixement. Je ne répondis pas à cette question singulière. « Souffrez-vous depuis longtemps ? » demandai-je. « Oh, oui !» fit-il avec un accent qui me glaça. « Oh, oui ! C'est là !» ajouta-t-il en touchant son front. « Voulez-vous que je vous fasse une ordonnance ?»« Volontiers, » répondit-il d'un air distrait. Je m'approchai de la table qui était, comme je l'ai dit, surchargée de livres et de manuscrits, et à la lueur vacillante d'une bougie, j'écrivis rapidement l'ordonnance. Quelle ne fut pas ma surprise, quand j'eus fini, de voir debout à côté de moi mon malade, qui regardait avec son sourire étrange les quelques lignes que j'avais tracées. Il prit le papier, le considéra quelque temps, et, haussant les épaules, « Ah, des remèdes » fit-il, « toujours des remèdes, mais croyez-vous réellement, monsieur, que cela puisse me guérir ?» Il fixa sur moi, en disant ces paroles, son grand œil mélancolique, et froissant le papier entre ses doigts, il le jeta dans les flammes. Puis il s'appuya contre la cheminée et me prenant la main. « Pardonnez-moi, me dit-il d'une voix qui devint douce tout à coup, pardonnez-moi ce mouvement de vivacité. Mais bon Dieu, vous avez là une singulière idée. Vous êtes jeune, continua-t-il avec son éternel sourire, et vous croyez votre médecine toute-puissante. Ma foi, monsieur, répliquai-je d'un ton un peu sec, je crois que le mieux serait de vous soumettre à un traitement et à un régime en rapport avec votre état. Mon état mental, vous voulez dire? Ah, vous me croyez fou, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez raison. Chez moi, le cerveau domine tout et prend toute la place. C'est une ébullition perpétuelle. Ce feu qui me dévore ne me laisse pas un instant de repos. La pensée, monsieur, mais c'est un vautour qui me ronge sans cesse. Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous affranchir de ce joug cruel? Pourquoi ne donnez-vous pas quelque repos et quelques distractions à votre esprit? Oh, des remèdes, des distractions, interrompit-il avec vivacité, mais vous êtes tous les mêmes. On achète les uns chez les pharmaciens, les autres à la porte des théâtres, n'est-ce pas? Et on doit être guéri. Si on n'est pas guéri, on doit mourir. Et la faculté n'a rien à se reprocher. Vous n'avez donc ni parents, ni amis? Il m'interrompit encore. Des parents? Non, mon père est mort fort jeune, peu de temps après ma naissance. Ma pauvre mère, il me sembla que sa voix s'altérait au moment où il prononçait ce mot. Ma pauvre mère, pendant 20 ans de sa vie, travailla pour m'élever, pour me donner une instruction brillante, libérale. Elle mourut à la peine. Voyez l'ironie du sort. 8 jours après sa mort, j'héritais d'un vieil oncle dont on soupçonnait à peine l'existence et qui me laissait une petite fortune. Des amis, oui, j'en ai quelques-uns. Jules, d'abord un bon garçon, mais il rit trop et son rire me rend malade. Puis tous ceux que vous connaissez qui ont eu la charité de me recommander à vos bons soins. Ils me croient fou eux aussi. Et quand je suis au milieu d'eux, ils me prennent pour le plastron de leur plaisanterie. Je suis leur amusement, leur bouffon, avec mes grands yeux, mes longs cheveux, mon grand nez et mes airs mélancoliques. Voilà, mes amis. Vous voyez ces livres qui sont là sur ma table, ces liasses de manuscrits, qui vous indiquent que j'ai cherché dans le travail l'oubli de moi-même. J'ai été reçu avocat, j'ai même plaidé, mais je me suis bientôt aperçu que tous mes efforts et tout mon travail avaient pour résultat d'enrichir quelques gredins et d'en arracher d'autres à l'échafaud qu'ils méritaient. J'ai eu honte de ce métier. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit, afin de soulager ma pauvre tête et d'éteindre ce feu qui me brûle. Le remède n'a pas été efficace. Que voulez-vous ? Je suis philosophe et je dois mourir philosophe. Il fit une longue pause. Ne croyez pas cependant, reprit-il enfin, que j'ai de la haine pour l'humanité, mon Dieu, non. Mais je trouve les hommes inutiles. Je me passe de leur esprit, de leurs travaux, de leur génie. Oui, c'est quelques tisons que vous voyez là dans l'âtre. Le murmure de ma bouillotte et le ronron de mon chat m'ont inspiré des vers 1000 fois plus beaux que ceux de vos grands poètes, des pensées 1000 fois plus ingénieuses que celles de vos moralistes, des réflexions plus profondes et plus élevées à la fois que celles des plus illustres prédicateurs. Pourquoi donc, alors, lirais-je les œuvres des hommes? Pourquoi écouterais-je leurs discours qui ne vaudront jamais ce que j'entends en moi? Aussi, depuis longtemps, toute ma vie se passe dans cette chambre, dans ce fauteuil. Et je pense toujours. C'est un travail incessant. J'ai là, continua-t-il en posant un doigt sur son front, j'ai là des traités d'économie politique qui pourraient régénérer notre société ruinée et abâtardie. J'ai des systèmes de philosophie qui réunissent en un seul tableau toutes les connaissances humaines et les étendent en les affranchissant des entraves où les retient la routine de vos professeurs. J'ai des plans de maison plus confortables que celles que vous habitez, des projets d'agriculture qui pourraient transformer la France en un immense jardin dont chaque habitant aurait sa part productive. J'ai des codes où l'équité et le bon droit ont toute la place qui leur manque dans les vôtres. Mais à quoi bon livrer tout cela au grand jour? Les hommes en deviendront-ils meilleurs? Que m'importe? Et serais-je soulagé? Non. Voyez ces 1000 manuscrits qui remplissent ma mansarde. Ils sont sortis de là, et je souffre toujours autant. Il se rejeta dans son fauteuil et continua avec feu. Voulez-vous savoir encore pourquoi cette flamme intérieure est si ardente, si dévorante? C'est que je n'ai jamais pleuré. Non, jamais. Jamais une larme n'est venue mouiller ma paupière. Voyez comme le tour de mes yeux est noir. Cela vient de là, j'en suis sûr. Voyez-vous ces rides de mon front, cette pâleur de mes lèvres? C'est que jamais cette rosée bienfaisante des larmes n'a baigné ma douleur et rafraîchi ma souffrance. Tout se passe en moi, rien ne sort de moi. Ici, sa voix s'altéra. Les autres hommes, lorsqu'ils souffrent, vont se jeter sur le sein d'un ami et s'en reviennent consolés. Moi, je ne le puis. Je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, le Prométhée de ce vautour infernal, la pensée incessante, dominatrice et cruelle. Ma douleur est comme un fer aigu qui, lorsque j'essaie de le lancer loin de moi, revient contre ma poitrine avec plus de violence et me mord au cœur. Tenez, je ne sais pourquoi vous m'inspirez confiance et je vais tout vous dire. Aussi bien, je n'ai peut-être pas longtemps à vivre, et je ne veux pas que mes secrets meurent avec moi. Tout ce que je vais vous conter est contenu là. Et il me désigna une liasse de papier poudreux jetée dans un coin de la chambre. Mais qu'est-ce que cela vous fait, après tout? Non, non, continuez, dis-je vivement. Si vous saviez combien vous m'intéressez. J'étais en réalité très ému. Où en étais-je donc? Oh, mon Dieu, qui fait chaud ici! Ma tête est comme serrée dans un étau. Je crois vraiment que de la glace me ferait du bien. Veuillez m'entouvrir un peu cette fenêtre. Je me levai pour satisfaire son désir. Lorsque je revins près de lui, ses yeux étaient fermés, sa respiration sifflante, une légère sueur perlait sur ses tempes. Il s'était endormi. Je considérai longtemps le pauvre dormeur dont ce violent effort avait brisé les forces et qui restait devant moi, pâle, immobile, animé. Le feu jetait ses dernières lueurs et éclairait le visage de Maximilien Heller, qui était d'une beauté singulière, presque fantastique. C'était un étrange et triste spectacle que celui de ce philosophe qui, avant 30 ans, s'était retiré des hommes parce qu'il trouvait les hommes inutiles, de ce rêveur que le rêve avait tué, de ce penseur que l'excès de la pensée faisait mourir de lassitude. Les quelques mots que je venais d'échanger avec Maximilien Heller m'avait inspiré je ne sais quelle mystérieuse sympathie pour ce malheureux jeune homme. Tout en le contemplant avec attention, je me demandais si véritablement ces cordes invisibles qui rattachent l'homme à son semblable étaient à jamais brisées en lui, et je cherchais, pensif, par quels moyens je pourrais arriver à guérir cette douloureuse maladie morale qui consumait son âme et son corps. Chapitre 2 L'arrestation. J'allais me retirer en me promettant bien de revenir sous peu de jours faire une seconde visite à cet intéressant malade lorsque j'entendis un pas lourd qui gravissait lentement l'escalier. Je prêtai l'oreille, les pas approchaient. Était-ce une illusion? Il me sembla même entendre un bruit de sanglots. Enfin, un coup sec ébranla la porte et une voix rude dit « Ouvrez, au nom de la loi !»
Le chat fit un soubresaut de colère. Maximilien ouvrit péniblement les yeux. Son premier regard tomba sur moi. « Ah, ah, ah bon, je me rappelle, » fit-il d'une voix éteinte. « Mais pourquoi m'avez-vous réveillé, monsieur, en frappant si... » Un second coup résonna contre les ailes vermoulues. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit Maximilien en fronçant les sourcils. « Veuillez ouvrir, docteur. » J'ouvris la porte. Un gros monsieur, ceint d'une écharpe tricolore, apparut sur le seuil. Quelques personnages de sombre mine se montraient dans le fond. « Excusez-moi, monsieur, » dit le nouveau venu en s'inclinant devant moi à plusieurs reprises, « ma visite est un peu tardive, mais vous savez le devoir. Impossible de remettre la chose à demain. Vous êtes bien, monsieur Maximilien Heller ?» Maximilien s'était levé et regardait avec son œil calme l'homme à l'écharpe. « Ah, non, monsieur, » répondit-il en avançant d'un pas, « Maximilien Heller, c'est moi. » « Ah, mille pardons, monsieur, je ne vous apercevais pas. C'est qu'il fait un peu sombre chez vous, jeune homme. Je dois commencer par vous rassurer et vous dire que la vue de mon écharpe ne doit vous inspirer aucune crainte. »« Monsieur, » dit le philosophe d'un ton rude, « je suis fort souffrant. Je vous prie donc de m'exposer brièvement le motif de votre visite et de me laisser ensuite le repos qui m'est nécessaire. » L'écharpe tricolore, dont la rotondité de l'inconnu était ornée, indiquait suffisamment sa qualité. C'était un respectable commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions. Je craignis un instant que la brusquerie de Maximilien ne lui attirât quelque verte réponse de la part de ce magistrat. Mais, heureusement, le commissaire paraissait posséder ses qualités de douceur, de patience et de politesse, que donne la longue habitude des hommes. Accoutumé par l'exercice de sa profession à se heurter aux caractères les plus abrupts, les plus indisciplinés, le magistrat finit par acquérir sur lui-même un surprenant pouvoir. Son cœur doit être insensible et mort à tous sentiments humains qui pourraient détruire cette invariable sénérité d'âme que la justice, comme la religion, exige de ceux qui veulent la servir. « Ayez l'obligeance de me suivre, monsieur, » répondit courtoisement le commissaire. « Nous vous retiendrons le moins longtemps qu'il nous sera possible, mais votre témoignage nous est nécessaire. » Maximilien se leva de nouveau de son siège. Il était si faible que je demandai au magistrat la permission d'accompagner le malade pour lui prêter le secours de mon bras. Monsieur Bienassi, ainsi s'appelait le digne représentant de l'autorité, y consentit sans peine. Nous traversâmes le long et sombre corridor et arrivâmes à une porte qu'on distinguait à peine dans l'obscurité. Un agent prit la lampe et l'approcha de la serrure qu'un ouvrier amené par le commissaire fit sauter en un tour de main. Une bouffée d'air glacé vint frapper nos visages. « Hum !» grommela un agent derrière moi. « Il aurait bien dû fermer sa fenêtre avant de partir. »« Gustave, » dit M. Bienassi en se tournant vers un des hommes qui le suivait, « allez-nous allumer une bougie, fermer cette lucarne. » L'agent fit ce qui lui était ordonné. Nous entrâmes dans une mansarde plus petite encore que celle occupée par Maximilien. Pour tout mobilier, une table, deux chaises et un lit sur lequel gisait une mauvaise paillasse. Dans un coin de la chambre, on distinguait une caisse noire fermée par un cadenas. Le commissaire s'assit près de la table, étala devant lui plusieurs papiers contenus dans un grand portefeuille, et après avoir invité Maximilien à prendre place sur une chaise à côté de lui, il fit un signe à un agent qui s'approcha aussitôt de la porte et dit à voix basse « Faites entrer le prévenu !» Je me tenais debout derrière M. Heller. Un bruit de pas retentit dans le corridor. Un instant après, on vit apparaître à la porte de la mansarde un homme livide, aux cheveux ébouriffés, aux yeux hagards, marchant avec peine entre deux agents qui le soutenaient sous le bras. « Approchez !» dit M. Bienassi, qui contemplait attentivement le nouveau venu par-dessus ses lunettes d'or. L'homme, assisté de ses deux acolytes, fit quelques pas dans la chambre. « Vous vous nommez Jean-Louis Guérin ?» demanda M. Bienassi. Le malheureux regarda le commissaire d'un œil hébété et ne répondit pas. « Vous étiez depuis 8 jours au service de M. Bréa-Lenoir. » Pas de réponse. Le commissaire poursuivit avec calme. « Savez-vous de quel crime vous êtes accusé ? On vous soupçonne d'avoir empoisonné votre maître. Qu'avez-vous à répondre ?» Un tremblement convulsif s'empara du prévenu. Il ouvrit 2 ou 3 fois la bouche pour parler, mais la terreur l'étreignait à la gorge, et il ne fit entendre que des sons inintelligibles. « Voyons, Guérin !» reprit le commissaire en détachant un moment ses regards du visage du prévenu pour les reporter sur les papiers placés devant lui qu'il feignit de classer. « Nous ne sommes ni des juges ni des bourreaux, et nous ne voulons vous faire aucun mal. Parlez sans crainte. Dites ce que vous voudrez, mais parlez !» Il peut se faire que vous soyez innocent, bien que les charges qui pèsent sur vous soient graves et sérieuses. Je vous ferai remarquer que votre silence, votre trouble peuvent être mal interprétés et servir de preuve contre vous. Avouez-vous avoir acheté de l'arsenic avant-hier chez l'herboriste Legras ? Le prévenu fit un violent effort pour se dégager des mains de ceux qu'il serrait, mais ce fut en vain. Il vit que ses tentatives seraient inutiles et que la fuite était impossible. Alors des larmes jaillirent de ses yeux, et d'une voix entrecoupée par les sanglots, « Laissez-moi » s'écria-t-il, « laissez-moi, je suis innocent. Oh, monsieur, je suis un honnête homme, je vous le jure. J'arrive de mon pays, et vous pouvez demander là-bas, je suis un honnête homme. » Le pauvre vieille mère, j'étais venu à Paris pour gagner un peu d'argent, car elle est infirme et ne peut travailler. Moi, un assassin. Oh, mon Dieu, mon Dieu !» Il joignit ses mains chargées de menottes et fit un effort pour les lever vers le ciel, puis soudain les forces parurent l'abandonner. Il poussa un profond soupir. Si les agents ne l'avaient soutenu, il serait tombé la face contre terre sur le carreau de la mansarde. « Portez-le sur le lit !» fit M. Bienassi en désignant le grabat placé dans un coin de la petite pièce. Maximilien posa sa longue main amaigrie sur l'épaule du commissaire et lui dit avec un sourire plein d'amertume « Vous dites, monsieur, que... « cet homme est un assassin !» M. Bienassi se retourna, un peu surpris, puis secouant la tête. « Il a contre lui des charges accablantes » fit-il d'une voix si basse que seul nous pûmes l'entendre. « Il n'a pourtant pas l'air d'un criminel. Je dois m'y connaître, monsieur, et je vous dis, de 2 choses l'une. Ou bien cet homme est parfaitement innocent, ou bien c'est un affreux scélérat. » Et un grand comédien. M. Bienassi fit encore un signe à l'un de ses agents afin de lui recommander d'avoir l'œil sur le prévenu dont l'évanouissement pouvait bien être simulé. Se tournant ensuite vers le serrurier qui, debout près de lui, attendait ses ordres, « Ouvrez-moi cette malle, dit-il, et dépêchons-nous. » Le serrurier brisa à coups de marteau le cadenas qui fermait la caisse noire. M. Bienassi s'approcha alors, sa bougie à la main, et souleva le couvercle. La malle était remplie d'habits grossiers et de linge de paysan. Mais les habits étaient soigneusement brossés, le linge d'une blancheur éblouissante exhalait le parfum champêtre de la lavande. Tous ces pauvres objets étaient rangés avec un soin qui témoignait que la main d'une femme, d'une mère attentive et prévoyante, avait présidé à ces humbles apprêts. Le malheureux Guérin était revenu de son évanouissement. On l'avait assis sur une chaise. Les yeux pleins de larmes, il suivait les mouvements des agents, qu'il bouleversait tout ce bel ordre, dépliait les hardes du pauvre garçon, les secouait, fouillait les poches et palpait les doublures. « Tiens, un nœud de ruban !» fit tout à coup l'un des agents en tirant d'un coin de la malle un bouquet fané entouré de faveurs roses. Il le jeta en riant à un de ses camarades. « Prends-le, Gustave, dit-il, tu le donneras à ta prétendue. » Monsieur Bienassis lança un regard de colère à son agent. En entendant cette plaisanterie un peu cruelle, le prévenu s'était soulevé sur son siège et avait serré violemment l'une contre l'autre ses deux mains liées. Maximilien Lair s'était levé lui aussi et considérait cette scène d'un air sombre.
Oh, monsieur le commissaire, dit le prévenu d'un air suppliant, voulez-vous me laisser ce nœud de ruban?
Montrez-moi cela, dit monsieur Bienassis. Il examina quelque temps le bouquet avec attention, le palpa, parut hésiter une seconde, puis enfin ordonna qu'on le remît au prévenu. Cependant, les agents continuaient leur perquisition sous l'œil attentif du commissaire. Mais ils avaient beau tourner et retourner les vêtements, enfoncer leurs doigts dans tous les coins de la caisse, ils ne paraissaient pas trouver ce qu'ils cherchaient.
« Laissez cette caisse, dit enfin M. Bienassis, lorsqu'il vit le résultat infructueux des recherches. Visitez un peu cette paillasse. C'est peut-être là que nous trouverons l'argent. » La paillasse fut retournée, défoncée, mais en vain.
Le commissaire ne se découragea pourtant pas. Il fit inspecter par ses agents, avec un soin extrême, les carreaux qui pavaient la chambre. Il fit briser le bois des chaises, qui aurait pu être creusé, de façon à receler de l'or. La table fut démontée, les murs sondés à coups de marteau. On fouilla les cendres de la cheminée. Enfin, après s'être livrés pendant près d'une heure à ce minutieux travail, les agents s'arrêtèrent, fatigués, et s'entre-regardèrent aussi penauds que les chasseurs qui ont battu la campagne toute la journée sans découvrir la moindre trace de gibier.
Mais c'est inconcevable, c'est inouï en vérité, murmura M. Bienassis en tenant sa tête à deux mains. Mais qu'est-ce que cet argent a pu devenir ? Cet homme n'avait pas de connaissances à Paris, pas de complices, c'est évident. Le crime est commis hier, nous l'arrêtons il y a une heure, et il est impossible de mettre la main sur la somme volée.
Le philosophe ne paraissait prêter aucune attention au monologue du commissaire de police. Son regard s'était fixé sur Guérin, dont il considérait avec intérêt la physionomie bouleversée. Après quelques minutes de réflexion, M. Bienassis parut se décider à tenter un nouvel effort auprès du prévenu. « Le résultat de nos recherches paraît vous être favorable, lui dit-il. Ne croyez pas cependant que la justice renonce à poursuivre ses investigations. Une somme considérable a été dérobée dans la nuit du meurtre. Il faut qu'elle se retrouve, elle se retrouvera. Les plus graves soupçons pèsent sur vous. » Tout vous désigne comme l'assassin de M. Bréal le Noir. Les preuves sont palpables, évidentes. Il ne vous reste qu'un moyen de vous sauver, la franchise. Avouez votre crime. Révélez l'endroit où vous avez caché l'argent volé. Dites le nom de vos complices. La justice vous tiendra compte de votre sincérité et vous pourrez échapper à la peine capitale qui vous menace. »
Le prévenu murmura d'une voix brisée, « Mais je suis innocent. »
Réfléchissez. Demain, peut-être, il sera trop tard. La justice aura découvert ce que vous lui cachez. Il ne vous restera plus d'aveux à faire. « Je suis innocent. » C'est bon.
Dès ce moment, je ne vous adresse plus la parole. Le juge d'instruction sera ce qu'il devra faire. Monsieur Bienassi, se tournant alors vers Maximilien Heller. Je vous demande pardon, monsieur, dit-il, de vous avoir fait assister à cette scène, mais votre témoignage peut nous être précieux, et je vous prie de me dire tout ce que vous savez sur le prévenu. Il a passé 8 jours dans cette chambre voisine de la vôtre avant de trouver une place. N'avez-vous jamais aperçu quelque chose de suspect dans sa conduite ? Ah ! C'est pour cela que vous m'avez fait venir ! Sans doute. On ne demeure pas quelque temps à côté d'un homme sans remarquer ses habitudes, ses fréquentations. A-t-il reçu quelqu'un pendant le court séjour qu'il a fait ici ? N'avez-vous jamais entendu un bruit de voix ? Sortait-il pendant le jour ou dans la soirée ? Le philosophe se leva sans répondre et s'approcha de Guérin, qu'il considéra quelque temps de son œil calme et profond. Vous deviez vous marier, n'est-ce pas ? Lui dit-il, à votre retour au pays. Oui, monsieur, répondit le prévenu en roulant de gros yeux effarés. Eh bien, vous pouvez commander votre habit de noces. Et vous, continua-t-il de sa voix brève en s'adressant aux agents de police qui le contemplaient bouche béante, veuillez bien sur cet homme, car avant 2 mois ici, il sera libre. Et se drapant dans sa longue houppe lente brune, Maximilien Heller sortit de la chambre avec l'air hautain de Don Quichotte défiant les moulins à vent. Je me retournai alors vers le commissaire qui murmurait en rassemblant rapidement ses papiers. « Oh, c'est étrange. Tout cela est véritablement bien étrange. Veuillez excuser mon ami, monsieur, dis-je un peu embarrassé. Il est souffrant et vous comprenez. » Oh, votre ami, monsieur, s'expliquera, je l'espère, devant le juge d'instruction, répliqua le commissaire d'un ton de léger dépit. Pour moi, ma mission est terminée, je vais remettre mon rapport. En achevant ces mots, il sortit, accompagné de son escouade d'agents qui entouraient le prévenu. Le bruit de leurs pas s'éteignit peu à peu dans l'escalier, et tout rentra dans le silence. Je me hâtai de rejoindre Maximilien Heller. Je le trouvai assis dans son fauteuil, en train de tisonner, avec les pincettes, le feu qui mourait. « Eh bien, lui dis-je, que pensez-vous de tout ceci ?» Il haussa les épaules. « Oh, le Surc et Calas vont avoir un compagnon dans le martyrologe de la justice humaine, » répondit-il tranquillement. Vous croyez que cet homme est innocent ? Oui, je crois, mais après tout, qu'importe. Il se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux. Malgré cette indifférence apparente, il était facile de voir qu'il ressentait une singulière émotion. Ses mains, agitées par un tremblement continuel, glissaient et remontaient fiévreusement le long des bras du fauteuil. Évidemment, sa pensée travaillait avec activité. Son imagination ardente était encore pleine du triste spectacle qu'il venait d'avoir sous les yeux. « Savez-vous bien, » fis-je en souriant, « que votre conduite a dû laisser quelques soupçons dans l'esprit de ce digne commissaire. En refusant votre témoignage, ne croyez-vous pas de passer pour complice ? À une autre époque, il aurait suffi d'un trait semblable pour vous faire pendre. Oui, mais vous savez aussi qu'à une autre époque, un trop célèbre policier demandait 4 lignes de la main d'un homme pour le faire condamner. Ceci peut vous expliquer mon silence. » En ce moment, les 12 coups de minuit sonnèrent à l'horloge de Saint-Roch. « Vous êtes fatigué, » dis-je à Maximilien, « je vais vous laisser reposer. » En effet, je me sens ce soir plus faible que de coutume. Je vais me jeter sur mon lit et prendre un peu d'opium pour tâcher de dormir. J'en ai grand besoin. Au moment où je pris congé de lui, il me dit avec une remarquable insistance « Venez demain de bonne heure, je vous attendrai. Il faut que je vous parle. Vous viendrez, n'est-ce pas ? Je vous le promets. » Puis je lui serrai la main et le quittai, encore tout ému de ce que je venais de voir durant le cours de cette soirée. En sortant de chez M. Maximilien Heller, j'achetai un journal du soir et lus ce qui suit aux faits divers. Un événement mystérieux vient de jeter la consternation dans le quartier du Luxembourg. M. Bréa Lenoir, célèbre banquier qui s'était retiré du monde de la finance il y a quelques années, après avoir amassé une immense fortune, a été trouvé mort dans son lit avant-hier matin. On crut d'abord à une attaque d'apoplexie. M. Bréa Lenoir était d'un embonpoint excessif et menait la vie la plus sédentaire. Mais on le convainquit bientôt que la mort du célèbre millionnaire était le résultat d'un crime. M. Castille, neveu du défunt, remarqua que le secrétaire de M. Bréa Lenoir avait été forcé et les papiers bouleversés. Un verre était placé sur une table voisine, et dans les quelques gouttes de liqueur que contenait ce verre, l'analyse chimique trouva des traces d'arsenic. Le défunt ne laisse pas de disposition dernière. Sa fortune colossale revient donc tout entière à son frère, M. Bréa Kergen. Et plus loin, on lisait ceci. Nous apprenons, au moment de mettre sous presse, que la justice a découvert l'assassin de M. Bréa Lenoir. C'est dit-on un domestique nommé Guérin, que le défunt avait à son service depuis 8 jours à peine. Guidé par la plus basse cupidité, ce misérable a empoisonné son maître. Il prétendit que les rats faisaient invasion dans sa chambre et acheta de l'arsenic. Il versa sans doute ce poison dans le breuvage que M. Bréa Lenoir avait l'habitude de prendre tous les soirs. La fable était tellement grossière que malgré les protestations d'innocence du coupable et l'idiotisme qu'il essaya, paraît-il, de feindre, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il est en ce moment entre les mains de la justice. Ainsi se trouve réduite à une simple affaire de vol, un crime qui semblait annoncer d'étranges péripéties et de curieux détails. On n'a pas encore trouvé le testament.